pas une chasseur orientale. Je réfute totalement ce qui se
passe. Et c'est tout de vous combattre au cas d'engage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, de maîtrise des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Le budget de l'État pour l'exercice 2016 a été reçu à l'Assemblée nationale. Lors de l'examen de cette loi, plusieurs préoccupations ont été soulevées par certains députés, entre autres sur la part allouée à la rétrocession aux provinces pour le soutien du processus de décentralisation. Le gouvernement a affirmé que ce processus est irréversible. Entre-temps, dans ce budget 2016, le 250 millions de dollars de rétrocession vient d'être affecté aux élections. Certains observateurs estiment que cette option prise par le gouvernement aura un impact négatif sur le fonctionnement des nouvelles provinces. Qu'en pensez-vous ? En direct, vous pouvez participer à ces débats au 081 800 90 75. Vous avez également la possibilité de réagir par vos messages sur notre page Facebook ou bien sur notre courriel pa@radiocapi.net. Dieudonné Nergassa est à la mise en onde. Julie Pesa Bongonda au standard et Pierrot et Lamegi réalisent cette émission coordonnée et présentée par Jérôme Gembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Voilà, merci encore de votre fidélité. En ce moment, le projet de loi des finances se trouve à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale pour un examen approfondi. Mais déjà, il y a des interprétations de cette loi. Nous en prenons donc une parmi tant d'autres. Il y a ce qui a été fait à la page 45, première page de la deuxième partie, où il y a un tableau avec les prévisions des recettes de nouvelles provinces. Curieusement, c'est le Haut-Katanga qui vient en deuxième lieu après Kinshasa, avec 13% des recettes, après le Congo central avec 8,15% et le Deux Kivu. Chose très curieuse. Ensuite, les Lomami, région qui prend donc, par exemple, la province qui comprend la région de Cabinda, Ngandajika, Mweneditu, province pas particulièrement riche, mais dépasse le Lualaba, province réputée être le plus riche. Alors la question, s'agit-il là d'une erreur technique ou encore une erreur qui s'est glissée dans le calcul de ces répartitions des recettes. Voilà, nous allons ouvrir les débats avec vous. Étienne, vous êtes à Kananga. Étienne, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour notre éditeur.
Vous avez la parole, Étienne.
Monsieur le journaliste, merci de m'avoir porté la parole. D'entrée de jeu, moi je pense que nous ne pouvons pas faire du débat autour des chiffres. Donc le problème c'est l'applicabilité, c'est déjà la question. Le budget peut être de 20 milliards, de 100 milliards, est-ce que ça profite au peuple congolais? Et personnellement, pour ne pas jeter de fleurs, je semble un peu féliciter ma tante Ampoule et tous ses papas, pour avoir maîtrisé les taux de dollars en Hollande pendant 5 ans. Mais ce qui n'a pas été le cas pour notre pays. En fait, avec le place que notre pays est en train de gagner par-ci, par-là, le pays a gagné 2 places, 1 place. Au niveau international, nous ne pouvons pas dire que Mme Kampoli est allée corrompre au niveau international pour que le pays gagne le place. Ça sera la tienne. Moi, je pense que le budget, M. Gérard Lungembo, ne pose pas problème. Le problème se trouve à l'endroit de notre chef de l'État. Personnellement, j'ai toujours aimé le chef de l'État parce que du moment où je vous parle, je vous dis que je suis chômeur, c'est-à-dire, par le chef de l'État, avec un salaire de 900 dollars par mois, posez-moi la question, je vais vous expliquer.
Mais allez-y, allez-y, Étienne.
Oui, oui, je vous donne ma réponse. Avant les histoires des élections, il y avait un système de nomination. Donc, le chef de l'État nous a offert un gouverneur qui a répondu aux attentes de la population, et le colonel André Lumbaya, qui a réduit le budget familial, donc le dépense de chaque famille. Elle a qui dépensait 5 000, ce soit retrouvé à 2 500. Elle a qui dépensait 10 000, ce soit retrouvé à 5 000. En appliquant le système suivant, Lumbay avait enlevé le verre qu'on achetait pour le Paris. Donc, il a mis un contenu en 90 francs, donc l'équivalent de 5 francs. Vous voyez que la famille qui dépensait 5 000 peut revenir à 2 500. la famille qui dépassait 2 000 est devenue à 5 000 francs. Donc, moi qui étais à 12 000, je me suis retrouvé à 6 000. Donc, quand je fais le calcul des décès que l'Oumaya a baissé grâce au chef de l'État de cette famille de Gabane, je prends les 6 000 francs de l'économie par jour, ma trace, ça fait pour 980 000 francs. Donc, le problème se trouve au niveau des endroits, de l'entourage du chef. Il arrive des fois les gens mal intentionnés qui ont l'intention de mettre le pays à genoux.
Oui, oui, Étienne, aujourd'hui, c'est vrai, le débat tourne autour de ce montant qui était alloué pour la rétrocession afin de soutenir le processus de décentralisation. Aujourd'hui, ce montant a été affecté, vient d'être affecté aux élections. Alors, comment les provinces vont-elles fonctionner? Et c'est la raison pour laquelle certains observateurs poussent leur raisonnement très loin en se posant la question si jamais on ne se retrouverait plus en face des difficultés, des fonctionnements et surtout des nouvelles provinces.
Non,
parce qu'on va leur demander de produire.
Le point de fonctionnement des nouvelles provinces, mais c'est cher. Je ne sais pas si je peux embrasser des sujets à la fois. J'ouvre un peu une parenthèse. Alors, je félicite le ministre de l'Intérieur et aussi le gouvernement pour avoir éliminé d'une manière indirecte toutes les assemblées provinciales qui nous ont donné aucun résultat. Parce qu'il s'y attend à la défaite de l'Oumaya qui a été nommé par le chef de l'État est parti. Tous les gouverneurs élus par notre assemblée provinciale. On projette ces provinces dans le chaos. La caisse de l'État qui a été réservée sur le chef de l'État n'est plus. Quand vous regardez les élections de 2016, la province où le chef de l'État fait ici moins de voix, c'est ici au Conseil d'Antan. Or que c'était la province où le grand Martin Lubaï lui-même passait à la radio locale pour dire le chef de l'État sera à nommer. Vous aimez Lubaïa, vous m'aimez. Si vous voulez que je reste au pouvoir, allez accueillir le chef de l'État. Mais il fallait voir la foule. Maintenant, le problème ne se trouve pas au niveau des visites de la province. Donc, le problème se trouve déjà animé de la bonne foi. Comme nous venons d'avoir un nouveau commissaire provincial, que moi j'appelle comme commissaire, et je l'appelle gouverneur Kande renouvelé. Alors, ça sera la sienne. Le gouverneur Kande était l'homme où la population ouest-catarienne pensait qu'il allait nous amener au ciel. Mais vu la situation de ce projet de la province.
Voilà, Étienne, s'il vous plaît, en tout cas, excusez-nous, on est obligé de vous couper, parce que là, finalement, nous tombons dans l'apologie des hommes politiques. Vous acceptez les uns, vous réfutez les autres. Alors, ça appelle quand même le débat, oui, mais vous avez dit les budgets pour vous peuvent être des 20 milliards, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est plutôt son exécution. Vous voulez, à ce qu'aujourd'hui, ce qu'on produit, puisse réellement profiter aux provinces. Et là, carrément, donc on sent comme si vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à l'option qui a été levée par le gouvernement, celle de prendre les montants qui ont été destinés à la rétrocession, qui soient affectés aux élections. Merci beaucoup, Étienne. Clovis, vous êtes à Boujimaï. Bonjour.
Bonjour, Sire. Bonjour à tous les amis de la radio Parti.
Vous avez la parole, Clovis.
Oui, merci, Sire. Moi, j'ai beaucoup d'inquiétude par rapport à cet argent qui a été tout d'abord produit pour l'organisation ou le fonctionnement de ces provinces. Aujourd'hui, on trouve que non. Cet argent est alloué à d'autres choses, à l'organisation des élections. La somme elle-même qui est insuffisante, insuffisante pour les élections. Je me dis aujourd'hui, nous étions à 11 provinces. Vous avez vu combien de problèmes nous avons eu par rapport à la rétrocession. Il y a certaines provinces comme ça qui n'ont jamais eu la rétrocession jusqu'à présent ou qui ont des dettes au niveau national. Mais aujourd'hui, à 26 provinces, et avec les difficultés qui posent jusqu'à maintenant toutes ces provinces-là, je crois qu'il y a à boire et à manger. Et techniquement, les politiciens congolais sont allés trop en besogne. Et c'est vraiment les découpages. Il faut tout d'abord prendre beaucoup de maîtrise et allouer beaucoup de moyens. Pourquoi aujourd'hui, là, regarder dans la province du Kasaï oriental, à demander aujourd'hui, on voit le Mami sans gourmet. Cette province est désenclavée. Comment les institutions vont pouvoir fonctionner quand on a pris tout d'abord l'argent qui était alloué au fonctionnement de ces provinces et maintenant alloué à l'organisation des élections? C'est vraiment une cacophonie que je ne sais pas comprendre. Je crois que c'est dommage. Nous allons nous trouver dans un chaos avec les dysfonctionnements des institutions au niveau de provinces nouvellement créées. Je crois que le gouvernement congolais doit vraiment revoir sa politique pour ne pas nous faire tomber dans un chaos, j'ai dit comme ça, et dans une crise avec ces années électorales, avec tout ce qu'on traverse dans ce pays, la sécurité, le chômage, et l'aspect politique, l'aspect économique. Donc il y a beaucoup de choses et qu'il fallait revoir la politique vraiment au niveau du fonctionnement des nouvelles institutions qui vont résister, exister théoriquement, mais pratiquement, on trouve que non, les institutions ne vont pas exister. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et comment ils vont se trouver les moyens aujourd'hui que l'argent qui était alloué à ces institutions a été déjà récupéré? C'est dommage pour moi, et c'est vraiment un chaos. Nous allons tomber dans un dysfonctionnement des institutions au niveau des provinces nouvellement créées. Voilà pour moi une idée que je suis en train de mettre.
Voilà, merci beaucoup Clovis. Nous restons aujourd'hui pour vous. Disons, il y a cette inquiétude qui va dans les sens de vouloir au fait créer un blocage dans ce qui concerne le processus qui, selon le gouvernement, est irréversible. Et nous l'avons vu avec la nomination des commissaires spéciaux récemment. Donc maintenant, la plus grande question, nous savons qu'il y a ce processus où la décentralisation qui crée des charges, la décentralisation avec ces nouvelles provinces qui doivent en principe fonctionner. Il y a autant de questions que nous posons autour de cela. Il y a bon nombre de gens qui nous ont envoyé d'ailleurs leur message, Métos Meshak Jotsadak, qui nous a appelé et qui nous a écrit, il dit que les concernés du peuple et que les élections, ce qui concerne beaucoup plus le peuple, c'est que les élections aient lieu, voilà, donc pas plus. Si jamais le gouvernement a affecté cet argent pour les élections, nous sommes tout à fait d'accord. Fabrice Pianantenga, dans la mesure où on fait l'amalgame entre la décentralisation et le découpage territorial, déjà, il y a un problème, ou soit c'est un agenda caché contre la République. Lito Marcelet Kajimba, pourquoi le gouvernement Matata ne veut pas prendre des élections de 2006 comme priorité? William Iluchi Ilunga dit ceci depuis Kamina, dans la province du Olomami. Comment il est dit au départ, il y a une chose cachée pour perturber tout en commençant en favorisant les dysfonctionnements à ce niveau. Voilà, nous recevons dans ce studio nos invités. Il y a Steve Kivata, qui est juriste, et également Fumutoto Basanga, qui est le président de la Troisième Voie, et comme il aime bien le dire lui-même, c'est le parti des incontents, des mécontents.
Conseil national au parti des mécontents.
Voilà. Alors, d'entrée de jeu, c'est vrai, nous sommes dans la décentralisation, parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous parlons budget et puis décentralisation. Vous, depuis un certain temps, vous enseignez dans l'université populaire, la décentralisation, tout le monde le sait, dans le principe le plus simple, que ça crée des charges. Et maintenant que le gouvernement, le montant qui était alloué pour la rétrocession vient d'être affecté pour les élections, est-ce que ça ne posera pas un problème?
Merci beaucoup, M. Jouès, pour la question. Je tiens d'abord à saluer avec ma main sur le cœur les grands auditeurs de notre radio à travers Kinshasa, les provinces et pourquoi pas la communauté mondiale, sans oublier la diaspora congolaise. C'est là le problème. Pourquoi nous avons souhaité la décentralisation? La décentralisation elle-même n'est pas une loi. La décentralisation elle-même n'est pas confondre avec la loi des finances qui est le budget. La décentralisation lui-même est une pensée et système politique qui ne peut être nécessaire que pour corriger les erreurs, les imperfections, les désordres, les difficultés dans un peuple. Depuis 1885 jusqu'au mois de février 2006, nous étions un peuple, mais qui n'avait pas le pouvoir de connaître comment choisir ses dirigeants, comment leur donner le pouvoir, comment les soutenir en cas de bonne gouvernance, comment le retirer et comment remplacer le premier dirigeant par les seconds. C'était ainsi que nous avons opté pour la décentralisation, qui est un système politique qui crée dans le peuple la souveraineté de pouvoir se choisir ses propres dirigeants. Il faudra que les gens comprennent d'abord ça comme principe. Parce que lorsqu'on parle de la décentralisation, le pouvoir politique lui-même ne provient plus d'un individu, d'une institution, mais du peuple lui-même au premier et au second degré.
Quand nous prenons maintenant la définition de la décentralisation, nous ne cessons pas de dire que c'est une modalité de gestion politique qui consiste à créer des personnes publiques avec compétences et ressources propres. Et ces personnes morales, ces personnes publiques ne sont pas créées pour blaguer. On ne crée jamais une organisation, une idée, une structure pour renforcer les problèmes qui existaient avant la création de la structure. On crée une association, un parti politique, un système politique pour trouver réponse aux problèmes qui précédaient sa création. Et donc, la décentralisation ne peut pas renforcer le désordre au Congo. La décentralisation est pressentie comme nécessité pour trouver des réponses aux problèmes de notre peuple. Alors, la décentralisation crée maintenant des charges pour l'État. Pourquoi la décentralisation crée-t-elle des charges pour l'État? Mais parce que lorsqu'on avait, dans la centralisation du pouvoir avec Mobutu, le roi de la Belgique, la centralisation du pouvoir, on n'avait qu'un seul centre d'impulsion politique. Donc l'État ou le peuple congolais n'aurait pas beaucoup de charges, parce que s'il fallait nommer le gouverneur,
c'est
le monarque qui lui-même se réveille le matin, nomme le gouverneur. Le peu d'argent qu'on peut affecter pour la nomination de gouverneur ne peut pas égaler le nombre ou la somme d'argent qu'on doit mobiliser pour organiser l'élection des 26 gouverneurs par exemple. Voilà pourquoi nous disons qu'on ne peut pas blaguer avec la décentralisation, parce qu'elle crée énormément de charges pour l'État. C'est que si vous ne la gérez pas bien, la décentralisation peut nous coûter plus cher que la centralisation du pouvoir. C'est là le problème que les Congolais doivent savoir. Les Congolais doivent savoir que la décentralisation Congo n'est pas une réforme. Parce que depuis 1985 jusqu'en 2006, nous n'avons jamais dans le passé appliqué la décentralisation et que nous avons par suite perdu et que nous avons décidé de revenir dans la perfection dans laquelle nous étions dans le passé. Non! Depuis le roi de la Belgique, le royaume de la Belgique, la dictature de Mobutu, et même avec Mouzé, et même la première partie de la gestion de Kabila, c'était la centralisation du pouvoir. Et nous avons décidé de faire une révolution, c'est-à-dire de changer nos mentalités pour entraîner un nouveau système de gestion. Ces nouveaux systèmes de gestion créent combien de centres d'impulsion politique qui conséquemment mettre ce qui va développer.
Oui, mais actuellement, nous aurons combien les personnels politiques.
J'arrive.
Oui.
D'abord.
Oui, parce qu'à l'autre
bout, parce qu'il y a une révolution qui est allée. D'abord. La décentralisation crée d'abord plusieurs centres d'impulsion politique, notamment le pouvoir central, le pouvoir provincial, les entités territoriales décentralisées et les pouvoirs locaux. Dans ces centres d'impulsion politique créés, il y a les personnels politiques, maître Steve pourra nous aider avec le nom, il y a les personnels administratifs, et il ne faut pas aussi oublier les personnels techniques. Hein. Bon, c'est aussi administratif, il y a les alliés, par exemple, les experts qu'on peut utiliser, qui ne sont pas liés à l'État par le statut de la fonction publique, mais qui doivent rendre des services et des biens à l'État.
C'est la raison pour laquelle même l'ancien ministre de fonction publique s'était déjà lancé dans un processus de décentralisation de l'administration.
Voilà les tout grands problèmes au Congo. Or, jusqu'au moment où nous parlons, s'il n'y a pas les budgets consolidés de toutes ces entités-là, la décentralisation qui était une nécessité devient d'abord dans notre existence et c'est déjà un
mauvais départ. Alors, maître Steve Kouata, c'est vrai, la décentralisation crée des charges. Maintenant que le gouvernement vient de décider, c'est-à-dire c'est à cette somme qui était en fait allouée à la rétrocession, dans l'explication la plus simple, je crois que pour un commun des mortels, on peut comprendre que cette rétrocession aidait au fonctionnement des provinces. Ben alors, quand sera-t-il à ces jours?
Bon, il est vrai qu'on doit tous le reconnaître que le processus de décentralisation va connaître un grand coup, parce que tout simplement, on doit d'abord savoir de manière générale que le budget n'a pas augmenté, que plus ou moins il a baissé de 5 à 10%, et par conséquent, avec le défi des élections, le gouvernement, contre le principe républicain, a décidé d'enlever 250 millions de dollars dans le paquet qui était reconnu aux provinces. Pourtant, nous sommes dans un contexte où on a démembrer les provinces, donc on a créé de nouvelles provinces, on a installé de nouvelles provinces. Effectivement, d'abord quand je dis que c'est contre le principe républicain, c'est parce que, en principe, les élections sont une compétence régalienne de l'État. Donc les provinces ne veulent pas contribuer à l'organisation des élections. Mais malheureusement, dans le budget 2016, on a amputé 250 millions de dollars dans le frais qui était reconnu comme rétrocession aux provinces, et les pouvoirs centrales aussi a donné 250 millions de dollars, ce qui fait que dans le budget 2016, on a plus ou moins prévu 500 millions de dollars pour l'organisation des élections. Il reste bien sûr à les mobiliser pour concrétiser l'organisation des élections. Donc, dès que on prend une telle option, déjà on ralentit les processus de rétrocession de la décentralisation parce que on rétrécit les frais qui leur sont reconnus. Si on prend le rien que le petit exemple de la province du Katanga qui recevait en 2015 500 qui devait recevoir en termes de prévision 550 millions de dollars. Dont 100 millions pour le paiement de personnel de quatre domaines à compétences exclusives, c'est-à-dire les PSP, l'agriculture et les affaires coutumières, et 450 millions de dollars pour l'investissement. En 2016, le Katanga ne pourra recevoir que 450 millions, et les 100 millions sont partis comme étant contribution à l'organisation des élections. Mais malheureusement, dans ces 450 millions, avec le démembrement, le Haut-Katanga en elle-même, c'est-à-dire une province dans les quatre autres qui sont subdivisées, le Haut-Katanga prend la moitié. Donc plus ou moins 250 millions, et les trois autres provinces se subdivisent l'autre moitié. Et pourtant, il y a une grande question qu'on doit se poser pour le cas du Katanga. On sait que la province du Katanga aujourd'hui, considérée comme étant la province la plus grande de la République démocratique du Congo, avec 200 millions de dollars de service de la dette à payer annuellement. Malheureusement, le pouvoir central ne faisant pas le budget de l'État, ni s'en aperçoit pas. Comment on va répartir ces dettes entre les différentes provinces? Est-ce que le Haut-Katanga va prendre la moitié de la dette et l'autre moitié va être partagée entre les autres provinces, ou quelle sera la clé de répartition pour éviter le blocage? Et le même problème avec le budget 2016, nous le retrouvons dans les recettes telles que réparties dans certaines provinces. Prenons les provinces qui sont sorties de la province de Bandundu, Kwilu, Kwamo et Maïdoumé, qui disposent de plus ou moins de la moitié du personnel enseignant de la République. Mais ce qu'on leur donne comme rétrocession va en principe ne plus que payer ces personnels-là. Et qu'est-ce qui va rester pour l'investissement? Qu'est-ce qui va rester pour la construction des écoles? Donc il y a effectivement un problème dans le budget 2016. On peut dire que le budget 2016 est anti-décentralisation.
Voilà. Alors on va réduire les temps de Dionapsi à Manono, Jean Sengui à Kinshasa, Arsène à Kikuite. Dionapsi, vous êtes à Manono, bonjour.
Bonjour,
bonjour. Voilà, vous venez de suivre, disons, les invités. Ceci va parler du budget par rapport à ces charges que crée d'ailleurs la décentralisation. Pour lui, en fait, ce budget est anti-décentralisation. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, merci beaucoup. Comme vient de le dire, nous avons un problème de budget dans notre pays. Si vous essayez de voir, monsieur le journaliste. Le budget, il faut d'abord comprendre, quand on élabore le budget, l'élaboration du budget, c'est vraiment constituer l'acte fondamental de la vie de l'État. Donc, si le budget vraiment n'est pas réaliste, vous voyez que la vie de l'État sera vraiment une vie en difficulté. L'État aura des graves ou de sérieux problèmes pour son fonctionnement. Ça, on a commencé à crier jour et nuit pour le réalisme de nos budgets de notre pays. On a constaté que les recettes, comme on vient de le dire, chaque fois à la radio, comme on le dit chaque fois, je m'excuse à la radio au Capi, vous rendez compte qu'il y a un problème de notre budget, c'est le journaliste. Mais si le budget a déjà des problèmes, il y a la décentralisation qui vient. On ne peut pas du tout résister à la décentralisation pour des raisons d'insuffisance du budget. Oui, c'est un problème. Il faut, moi, ce que je vais insister par rapport au budget, comme je l'ai dit, c'est ça même, son élaboration, c'est ça la vie de l'État. Qui est vraiment le travail des élus. Si nous sommes dans quel régime? Nous sommes dans un régime démocratique, JR.
où l'examen des votes divisés est une prérogative des élus du peuple. Mais parfois, vous allez vous rendre compte qu'ils passent tout leur temps au Parlement juste pour chercher à défendre leur camp politique.
Alors, vous le, oui, Dieu merci, vous ne craignez pas que maintenant, les montants qu'on a amputés autour de la rétrocession puissent avoir un impact négatif sur le fonctionnement des nouvelles provinces, notamment. Parce qu'il y a des provinces qui sont pauvres.
Oui, c'est ce que je voudrais dire. C'est là où je vais
aller. Allez-y rapidement, parce qu'il y a encore d'autres auditeurs.
C'est ça ma crainte. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que, et tout Congolais qui m'écoute, tout le monde doit comprendre que, lorsque ce montant doit être mal impliqué, doit être mal affecté, ça va déranger d'autres situations dans le pays. Voilà pourquoi je voulais parler plus de lui. Ils doivent mettre l'accent sur les réflexions.
Voilà, merci beaucoup, Dieu. Merci parce que l'Assemblée avait reçu cette loi budgétaire. Et donc, je crois que nous allons prendre Jean Sengui qui est à Kinshasa. Jean Sengui, bonjour.
Bonjour, Radio Kapi, bonjour, Jean.
Vous avez la parole, Jean Sengui.
Ok, merci beaucoup. J'ai bien fait l'analyse de mon professeur et puis le maître. Mais moi, je trouve que il serait juste qu'on puisse seulement arrêter d'abord le fait problème de décentralisation cette année ici. Pourquoi? Parce que déjà, avec les budgets qui étaient alloués pour la rétrocession, étant donné que le gouvernement avait récupéré ça. Alors, même si on a déjà nommé les secrétaires spéciaux, soi-disant, donc on peut seulement arrêter. Et ça, il reste là comme ça, qui n'entre pas à force. C'est pas qu'on va faire fonctionner les provinces africaines avec un budget. Il n'y a rien. Nos provinces ici, qui n'ont pas de route. Alors, ça va quand même une série, donc on privilégie alors cette année les élections, et puis, on progresse. Dès que ce sera déjà trop tard, mais fonctionner avec les anciens budgets
de mais
fonctionner avec 26, alors que vous n'avez pas les moyens pour nous donner au fonctionnement de cette
sorte. Voilà, alors Jean-Fégui, est-ce que vous imaginez un peu la suite? Parce que le gouvernement persiste ses signes que ce processus est irréversible. Raison pour laquelle il a même nommé récemment donc les commissaires spéciaux. Donc on pourrait dire qu'on ne revient plus en arrière.
Oui,
mais là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le conseil ne plafonne pas?
C'est pour faire, disons, pour respecter la Constitution. Mais ils ne sont pas réalistes, parce qu'en réalité, ils devaient déjà analyser ces problèmes avant. Et voilà, nous privilégions les élections, alors en même temps, on ne fait pas, donc ils font la décentralisation. On devait voir déjà bien avant ça. Mais pourquoi ils devaient d'abord le faire? Ils ont dit, on ne peut plus revenir et tout ça. Non, ça, c'est nous, c'est
bon.
Mais il faut seulement savoir que ça ne va pas bien fonctionner. Pas besoin de problème.
Merci beaucoup, Jean Sengui. Merci beaucoup, Jean Sengui, d'avoir appelé les Kinshasa. Arsène, vous êtes à Kikwit, bonjour.
Bonjour, M. Général, bonjour à tout le monde.
Est-ce que vous pensez, comme certains observateurs qui estiment que cette option prise par le gouvernement aura un impact négatif sur le fonctionnement des nouvelles provinces?
Effectivement, je commence d'abord par féliciter le duo qui est en train de se battre là pour la décentralisation. Mais moi je veux dire ceci, c'est du bric au black. Je crois que le sens de responsabilité donne de bonnes décisions. Je crois qu'à partir du début, quand on a une mauvaise idée dans la tête, les résultats ne peuvent être que mauvais. Donc ça veut dire ceci, on prend deux choses à la fois. Il y a la décentralisation, il y a les élections. On les met ensemble. Et les restes. Et les restes, s'il vous plaît. Est-ce que la nécessité, c'est dans ce qu'on a prévu, dans le plus de 80% du budget, qui est plus important que la décentralisation et les élections? Je crois que la fin de règne est toujours comme ça. On voit ça partout au monde.
Merci beaucoup, Arsène.
Mais je veux dire, en fin de compte, pour conclure, je dirais, c'est ceci. Mettons les histoires en ordre. La décentralisation, oui. Les élections, oui. Mais en ordre. Si ce n'est pas en ordre, vraiment nous allons faire un désordre
total. Parce que moi,
je ne laisserai pas passer. Au Qatar, il y a autre personne qui ne laissera pas passer. Et finalement, on ne va plus commencer à maîtriser la nation. C'est ça la conclusion.
Arsène, quelle est alors la priorité, selon vous? Les élections? Les élections? La décentralisation?
La priorité de les élections, qu'ils s'en aillent. Voilà,
merci beaucoup Arsène d'avoir appelé 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Oh.
Radio Okapi fait vibrer ses auditeurs avec la Ligue des champions de la CAF. Final retour tout puissant Mazembe de la RDC contre US Medina d'Algérie avec une antenne spéciale durant 4 jours. Tenez, jeudi 5 novembre dans Parole aux auditeurs, vendredi 6 novembre et samedi 7 novembre, décrochage spéciaux à Lubumbashi et dimanche 8 novembre, le direct de la finale avec Multiplex. Vibrez avec les Bacarouina, la passion du sport, c'est sûr, Radio Okapi dans Okapi Sport.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous poursuivons avec vous, parole aux auditeurs, votre magazine des champs citoyens, après avoir écouté Étienne, Clovis, Arsène et Dieu merci, et aussi Jean Séguy de Kinshasa. On a compris qu'il y a, en fait, cette inquiétude hein, entre le budget et la décentralisation, les élections qui entrent en scène, quelle doit être la priorité. Bon, finalement, on venait de suivre Steve Kivata qui a dit que, en fait, le fait d'imputer la réduction la part allouée à la rétrocession, ça risque d'avoir un impact. Je reviens sur la même question, vous qui êtes expert aussi à la décentralisation, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut dire qu'on sera dos au mur si nous continuons à rester dans la ténérité?
Non, il y a un problème. J'ai entendu un auditeur dire que la priorité, c'est les élections. Mais les élections, on ne les réalise jamais en dehors du système politique. Quel est le système politique actuel au Congo qui inclut à son sein les élections? C'est la décentralisation. Vous ne pouvez jamais dire que vous voulez les élections au Congo et que vous ne voulez pas la décentralisation. Si vous voulez les élections sans la décentralisation, comment vous allez voter pour les gouverneurs de province, les députés provinciaux et les autres échelons des élections? Non! La priorité au Congo, c'est rendre effective la décentralisation. Faire en sorte qu'aucunement le pouvoir provincial et central ne puisse marcher sur les compétences et ressources des pouvoirs, des autres pouvoirs institués par le peuple lui-même dans la Constitution. C'est ça la priorité. Ce n'est même pas le retour aux 11 provinces, parce que ça ne sert à rien de retourner aux 11 provinces avec la décentralisation du pouvoir. Le problème, ce n'est pas les budgets. Le problème, ce n'est pas les lois. Le problème, c'est que nous sommes des monarques. La majorité actuelle est constituée des monarques. Ils ne veulent pas de la décentralisation. Monsieur le journaliste, réfléchissons ensemble. Nous avons 5 gouverneurs qui sont restés et nous avons 21 conseils spéciaux du gouvernement qui sont nommés. On a tellement peur de dire que le président, ou qu'on a honte, pas peur, de dire que le président n'a plus qu'à nommer des gouverneurs. On dit qu'il a nommé des conseils spéciaux du gouvernement. Je pose la question. S'il y a convocation des conseils spéciaux.
Non, il faut que respecter l'arrêt de la Cour constitutionnelle.
Ça ne figure pas dans la constitution les conseils spéciaux.
C'est l'arrêt de la Cour qui a demandé
la
mesure
transitoire. L'arrêt de la Cour n'a pas qualité d'aller au-delà de la Constitution. Parce que les attributions, en droit, on dit la compétence et l'attribution. Les attributions de la Cour constitutionnelle sont définies dans l'article 73 de la Constitution. C'est une déviation, nous devons le dire. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, si on convoque la conférence des gouverneurs, les conseils généraux vont-ils venir ou pas? Ils vont venir en quelle qualité?
En qualité de commissaire spécial.
Non, de gouverneur. Voilà le problème. Les décisions administratives qu'ils doivent prendre doivent être des décisions comme les gouverneurs prennent des décisions. Les actes administratifs qu'ils doivent poser doivent être les actes administratifs des gouverneurs. Voilà, au lieu de dire au monde que nous avons tué la démocratie, la décentralisation, en nommant les gouverneurs, on nous dit non, ce sont les conseils généraux du gouvernement. Comment pouvez-vous imaginer qu'on gère une province avec un pouvoir délibérant élu par le peuple, en face de lui, un pouvoir exécutif nommé? Alors, les gouverneurs nommés là, ils sont les débats, devant les députés provinciaux ou devant les chefs de l'État.
Alors, donc, il y aurait un problème,
s'il vous plaît.
Allez-y.
Deuxième chose, au niveau de la décentralisation politique, nous ne pouvons pas comprendre. Les partis de la majorité au pouvoir central ne veulent pas transférer, ni reconnaître, ni rétrocéder les ressources et compétences des provinces, la santé, l'agriculture, les affaires coutumières et consorts. Ils continuent à gérer l'administration des provinces comme c'était des petits enfants qui n'étaient pas en train de gérer et donc ils étaient sous des fidèles. S'il vous plaît. Et les mêmes partis de la majorité au pouvoir provincial ne veulent pas revendiquer les ressources et compétences des
alors, maintenant que nous nous retrouvons dans cette situation.
Les partis de l'opposition qui ont dans d'autres entités du pays, notamment qui attendent la majorité au pouvoir en délibérant, n'en font même pas écho. Donc, non seulement la majorité au pouvoir, mais aussi l'opposition et la société civile, nous sommes des monarques et nous sommes contre les partis.
Alors, alors maintenant que, disons, cette récession est amputée, donc c'est là où nous disons, nous risquons d'aller de mieux. Les contrôles budgétaires au niveau des provinces ne se fera plus.
On est déjà dos au mur. On ne doit pas rechercher que l'on soit encore plus dos au mur parce qu'on l'est déjà. Tout simplement, moi je pense qu'il est très important de rappeler à certains auditeurs que la décentralisation ne doit pas être confondue avec les découpages. Les découpages avec le processus d'installation de nouvelles provinces. Quand on parle de décentralisation, c'est ce fait-là de donner les ressources telles que le constituant l'a reconnu à d'autres entités que le pouvoir central, de les donner effectivement à ces entités, donc provinces et entités territoriales décentralisées, ainsi que le pouvoir y correspondant. Aujourd'hui, c'est ce qui ne se fait pas. Donc, même avec le 11, même avec le 26, nous avons le même problème. Et malheureusement, avec le 26, on a ajouté un autre tard, on a créé, avec un arrêt, comme on peut le dire, un arrêt de la honte, un arrêt qui est allé au-delà de la Constitution, qui a violé le principe des
légalités. C'est quand même une instance supérieure de la justice. Vous êtes du droit.
Par conséquent, je dois être plus choqué que d'autres. Donc, c'était un arrêt de la honte, parce que cet arrêt a parlé d'une imprévisibilité qui n'existe pas. Aujourd'hui, on parle de ces commissaires spéciaux dont le moyen de fonctionnement, le frais de fonctionnement, non prévu dans le budget. Il y a un expert du gouvernement qui a dit que leurs frais de fonctionnement sont logés dans les succursales de banque centrale au niveau des différentes provinces. Comment est-ce qu'on a pu prévoir le frais de fonctionnement pour ces gens-là, mais on n'a pas pu prévoir le frais pour les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs? Donc si il y a un mot qui doit mieux exprimer l'arrêt de la honte, moi je permettrai.
On va revenir à vous, il y a juste une inquiétude, juste que, après avoir interprété un peu les budgets, on a décelé quand même quelques flous, on aimerait bien avoir quelques précisions par rapport à vous, nos invités. On prend Léon qui est à Kisangani, Michel Amakadi et Maître Trésor à Kinshasa. Léon, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Léon.
Oui, merci beaucoup, monsieur G. Moi, je pense que par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est vraiment, nous sommes en train de visionner cette thématique comme si il y a une anguille sous roche, dans le sens que la décision de la décentralisation a été prise d'une façon précoce. Raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train d'observer certaines histoires ne marchent pas au gouvernement. Et nous semblons penser que peut-être c'est une façon de chercher le glissement. Le gouvernement est en train de mettre quelque chose dans la tête des Congolais pour leur dire que non, voilà, nous sommes en train de bien travailler, nous sommes en train de bien marcher, aussi le temps que tout ne marche pas bien. La priorité, c'était la planification sur les élections de 2016. Mais ce que nous voyons ici, tout ça, c'est la recherche des glissements pour dire que voilà, on n'a pas l'argent. Est-ce que le gouvernement peut marquer l'argent pour organiser les élections uniquement d'abord pour les gouverner?
Merci beaucoup.
Alors, nous pensons que c'est non, parce que nous savons très bien que l'argent est partout. L'argent, nous avons l'argent partout.
Voilà,
partout. Nous voyons les construire des maisons.
Voilà, merci beaucoup.
Des maisons comme des champignons dans des différentes villes d'autres pays. Comment aujourd'hui on pourrait venir nous dire que non, voilà, on n'a pas l'argent pour organiser uniquement les élections des gouverneurs? Hier, j'ai suivi
Merci beaucoup, Léon, d'avoir appelé les Kisangani. Je crois que cette inquiétude a été évoquée par notre invité tout à l'heure. L'argent pour le fonctionnement de provinces logées au niveau de la Banque centrale, mais le montant alloué pour les élections des gouverneurs, le gouvernement n'y a pas pensé. Donc, c'est là où il y a cette nébuleuse qui, en fait, se dégage. Merci beaucoup, Léon, d'avoir appelé des Kisangani. Michel, vous êtes à Matadi. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Michel.
Oui, moi, je crois à l'ère actuelle.
La RDC, c'est comme un bateau qui flotte, mais qui n'a plus de boussole. Nous l'avons déjà perdu. Et imaginez-vous, lorsque un bateau flotte sans boussole, nous allons nous coincer. Et là où nous allons, la majorité doit être responsable du chaos qui se court dans l'horizon. Mon frère, imaginez, nous avons passé les élections depuis 2011. C'est à peine qu'on nous parle encore des élections. Or, nous avons eu des budgets qui avaient des reprises sur les élections. Mais où l'argent était mis de ces élections que nous avons déjà prévues depuis 2011 jusqu'aujourd'hui. Mais nous avons dit, les gouvernements, rappelez-vous l'autre fois, on nous a parlé que le budget serait un budget qui va répondre aux soucis des Congolais. Mais depuis lors, nous avons commencé à acheter nos biens, même à l'époque des ministres. Nous avons eu un panier, qu'on appelait le panier de la ménagère. Mais depuis 2006, nous avons commencé à acheter avec les chassés vivants. Et à l'heure actuelle, ce sont les chassés d'Aou qui circulent. Et qui entre là-dedans. Ce n'est pas de ma soupe là-dedans. Mon frère, nous devons parler. Regardez seulement les pays frontaliers avec la RDC. Regardez la RDC. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si c'est la RDC qui travaille pour ces pays-là.
Oui, Michel, il y a un auditeur qui a parlé avant vous, là, et qui a dit, bon, est-ce que c'est un problème de budget ou un problème de son exécution?
C'est un problème d'abord de l'exécution du budget. Nos provinces ne pouvaient jamais souffrir. Il y a l'armée qui entre dans nos provinces. Et cet argent-là monte à Kinshasa. Mais malheureusement, même l'argent qui va à Kinshasa, ça ne profite pas à la nation. Vous voyez que nos provinces souffrent.
Voilà.
C'est le jeu qu'ils avaient joué avant.
Merci.
Ils ont mis dans toutes les provinces l'air pur.
Voilà, merci beaucoup Michel d'avoir appelé de Matadi. On revient à vous, Steve, et puis Fumon Toto. C'est vrai, nous avons tous scrité quand même le budget qui se trouve actuellement au niveau de la commission ECOFIN pour examen approfondi. Mais déjà, il est intéressant de voir à la page 45, la première page de la deuxième partie, où il y a un tableau avec les prévisions des recettes des nouvelles provinces. Curieusement, c'est le Katanga qui vient en deuxième lieu après Kinshasa, avec 13% des recettes, après les Congo central avec 8,15% et les deux Kivu. Chose très curieuse, les Lomami, qui comprend la région de Kabinda, Gandajika, la région de Kabinda, Gandajika, Moyen du tout, province pas particulièrement riche, mais ça dépasse les Lualaba, province réputée être la plus riche. Alors, je ne sais pas, c'est une adéquation, c'est paradoxe, comment vous expliquez au niveau de la décentralisation, au niveau du budget, est-ce que c'est une erreur technique?
Au niveau de la décentralisation, nous pouvons expliquer sans risque d'erreur que nous ne sommes pas encore décentralisés au niveau de la tête, de la conscience, nous sommes en train de renforcer la part des lions dans notre pays. Et si vous regardez l'établissement des inégalités là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des politiciens derrière. Parce que chez nous, quand on est nommé ministre, on est ministre de sa province, généralement, et plus spécialement de sa tribu. Donc, et vous voyez même si nos leaders politiques, la plupart d'entre eux ne sont populaires ou un peu populaires que chez eux. Alors que l'homme d'État, il doit avoir comme base politique toute sa nation, la communauté congolaise. C'est d'abord ça le problème. Le Haut-Katanga. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, j'ai entendu il y a quelque temps que même le gouverneur, l'ancien gouverneur du Katanga, avait prétendu avoir bien géré la province pour avoir augmenté le recette de la province. Mais par rapport à la décentralisation, on devait poser la question à Moïse Katumbi, savoir, vous avez bien géré, ok. Mais vous oubliez que vous avez trouvé des antécédents financiers qui vous permettaient de mieux faire plus que ce que vous avez fait. Parce que si on prenait Moïse Katumbi, qu'on le mettait pour gérer l'ancienne province du Kasaï oriental, je pense que parfois il ne réaliserait pas les mêmes performances qu'il a réalisées au Qatar et que peut-être il tomberait plus bas que Moïse Katsangi, qui n'a pas hérité d'une situation vivante comme lui. Mais quand vous dites que vous avez augmenté de recettes, quelles recettes dans le temps de la décentralisation? Les recettes propres des provinces, de la province, avec compétences et ressources propres, ou les recettes des services déconcentrés de l'État, notamment l'OFIDA, mais si vous êtes gouverneur d'une province, vous n'augmentez pas les recettes propres à la province. Vous n'exécutez pas plus de 60% de votre propre budget. Parce que le débat aujourd'hui dans la décentralisation, c'est de dire à Moïse, ok, par rapport aux services déconcentrés, même s'il y a une augmentation des recettes, vous ne pouvez pas prétendre mettre ça à l'actif de votre gestion, parce que ce sont des services qui collaborent directement avec le pouvoir central. Et donc, vous les avez augmentés avec Président Kabila et l'administration centrale. Ce n'est pas là que nous attendons votre performance. Dites-nous le taux ou le volume de la dette publique. Vous étiez en train d'emprunter l'argent pour le compte d'une province. Aujourd'hui, le Katanga a presque les mêmes taux d'endettement avec le pouvoir central. Et nous pouvons poser la question de savoir si l'État peut emprunter auprès des institutions bancaires. Deuxième question, nous allons poser la question. Mais vous étiez en train de mobiliser les recettes. Vous prétendiez, par exemple, mobiliser autant de recettes pour en être. Quel était le taux de votre exécution par rapport aux ressources propres? Lorsque le pouvoir central ne vous rétrocédait pas votre dû, quel était votre comportement avant de défendre aujourd'hui la Constitution? Voilà le problème. Le problème, c'est que les provinces, les entités territoriales décentralisées, qui n'ont pas de politiciens directs à l'unité présidentielle ou au gouvernement, ils ne peuvent pas être recompensés malgré la taille de l'air.
Donc, c'est que cette répartition.
Les viennent de notre
capacité
monarchique.
Voilà. C'est vrai, l'arrêt, c'était pour résoudre ce problème d'ingouvernabilité qu'on avait constaté dans les provinces. Maintenant qu'on vient de résoudre une partie, c'est-à-dire qu'on a nommé les commissaires spéciaux, mais il faut que l'argent puisse suivre. C'est vrai, il y a le frais de fonctionnement, logé quelque part. C'est vrai, c'est dans les secrets des cieux, on n'a pas les chiffres avec nous. Mais voilà. Vous pensez qu'avec cet argent, dans les mains des commissaires spéciaux, les provinces seront gouvernées et on quittera l'ingouvernabilité?
Bien sûr que non. Parce que tout simplement, la gestion, une bonne gestion, une bonne gouvernance, a ses principes. D'abord, connaître le frais de fonctionnement de nouveaux commissaires spéciaux, ça ne devait pas être un secret. Si on est dans la nouvelle gestion, ces frais sont à combien? Ils sont prévus dans quel budget? 2015-2016, parce que même dans le budget 2016, on ne nous a pas parlé de commissaires spéciaux, on a parlé de provinces avec leurs gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales. Alors, comment ça va fonctionner? Ça, premier élément. Deuxième élément, pour que l'on soit sûr que ces fonds seront bien gérés, il y a une institution politique l'exécution du budget ou soit la gestion du fonds, c'est l'Assemblée provinciale. C'est là où on en arrive en se posant la question, quelle relation va avoir les commissaires spéciaux avec les assemblées provinciales? Comment est-ce que une assemblée provinciale peut faire tomber un commissaire spécial qui ne va jamais, comme on l'a annoncé par le gouvernement, qui n'auront pas de gouvernement, ils auront de simples
qualités. Ils n'ont pas des rapports.
Avec un simple qualité, ces commissaires spéciaux seront efficaces. Donc nous sommes arrivés à la situation où l'honorable Mougito disait, ce sont des provinces mordées, avec des entités territoriales décentralisées comme les cimetières, et les commissaires spéciaux sont venus pour réanimer. C'est mort-né ou c'est prématuré, mais on sait que d'office, ils ne vont pas réussir. Nous, nous sommes en train de prier dans les domaines de la religion parce que l'État a failli. Que les élections provinciales arrivent très vite pour qu'on arrive.
Alors, regardez, écoutez encore Maître Trésor, Maître Dominique et Charles de Kinshasa, et puis on revient à vous pour la conclusion. Maître Trésor, vous êtes avec nous, bonjour. Maître Trésor, vous êtes avec nous, en troisième ligne.
Oui, je vous écoute, stagiaire.
Vous avez la parole.
Bien, merci. Je pense que le débat ici tourne autour des recettes. En cette matière, les recettes des provinces sont à deux niveaux. Les recettes à caractère national et les recettes à caractère provincial. Mais le débat ici tourne autour des recettes à caractère national. Mm-hmm. Les recettes nationales sont réparties à conférence de 60% pour le gouvernement central et 40% pour
les provinces
par voie de retenue à la source. La Constitution a prévu cela depuis 2006, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas exécuté cela suite à un arrangement entre les provinces et le gouvernement central. Dans le but de sauver les provinces entre guillemets en difficulté. Et on a remplacé la retenue à la source par le système de la rétrocession. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de cette rétrocession sans faire allusion aux recettes à caractère provincial. Ce sont des recettes qui reviennent exclusivement à chaque province. Et si le gouvernement a décidé d'imputer un montant sur ce qui revient aux provinces à titre de la rétrocession, moi je considère cela comme étant comme faisant partie des mesures transitoires et exceptionnelles, puisque si la Cour constitutionnelle avait pris cet arrêt proposant au gouvernement de prendre de telles mesures, c'est parce que la Cour constitutionnelle a vu que sur le terrain se posent des problèmes d'ordre financier que le gouverneur, plutôt que le gouvernement central, est dans l'impossibilité de les résoudre en ces moments précis.
Voilà. Merci beaucoup. Maître Trésor, on va accorder une minute à Maître Dominique et puis ainsi qu'à Charles, comme ça on va conclure parce qu'on a pris assez de temps. Maître Dominique, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Pierre.
Vous avez la parole, Maître Dominique, vous avez une minute.
Vraiment, c'est désolant d'entendre et de voir ce qui se passe dans notre pays. D'entrée de jeu, je peux vous dire que nous sommes en violation flagrante de notre constitution avec cette fameuse histoire de nomination de commissaires spéciaux qui va créer un chevauchement entre la constitution et la pratique sur le terrain. Et je vais te dire que nous sommes encore devant une crise, et une crise générale. Cette crise, déjà, prenons seulement l'exposé des motifs de notre constitution. Nous avons violé les acquis.
Voilà, merci beaucoup, Maître Dominique. Charles, vous avez également droit à une minute. Charles, vous avez la parole?
Oui, bonjour, Monsieur Gère.
Bonjour, Charles, vous avez la parole?
Oui, je vous remercie pour la parole. Je crois que vous avez suivi tous les intervenants d'aujourd'hui. Nous avons fait tous un constat. Il y a un adage qui dit il faut réfléchir avant d'agir. Je ne dirais pas que j'ai fait un constat où nous devons penser, mais le fait est réel. Et le gouvernement actuel n'a pas réfléchi avant de pouvoir agir. Il est le responsable de ses propres turpitudes. Il est en train de créer des situations qui, demain ou après-demain, il ne sera pas en mesure de pouvoir résoudre le problème. Quand vous suivez tous les gens qui ont intervenu aujourd'hui, il y a un désordre inorganisé. Pourquoi ils n'ont pas réfléchi? Vraiment, est-ce que je sais qu'en matière de gestion, il y a l'urgence et la priorité.
Merci beaucoup, Charles. Alors, on va conclure avec vous, Steve. Après avoir écouté cette deuxième série, comment vous réagissez?
Moi, je vais réagir rapidement contre Maître Trésor. Premièrement, quand il dit que la Constitution prévit 60% pour le pouvoir central, 40% pour les provinces, c'est faux. La Constitution prévit 50% pour le pouvoir central et 50% pour les provinces, donc 40% pour la rétrocession et 10% pour la caisse naturelle des péréquations, même si le pouvoir central pourrait le gérer. Est-ce que l'on a mis en place la rétrocession pour sauver certaines provinces? Non. La rétrocession a été mise en place parce que techniquement, ce sont les régies financières du pouvoir central qui vont collecter dans la province ces réserves doivent revenir à la caisse centrale, donc la banque centrale, pour qu'on fasse et on puisse ramener une part au niveau de province. Donc c'est ainsi qu'on commence à appliquer le concept de rétrocession. Il encourage les mesures exceptionnelles qu'aurait prises la Cour constitutionnelle. Là encore une fois de plus, ça m'a fait trembler, Maître Trésor, il est juriste. Il encourage ces mesures exceptionnelles parce que, soi-disant, la Cour constitutionnelle considérait qu'il n'y avait pas les moyens sur le terrain, mais c'est faux. La Cour constitutionnelle ne peut pas, il ne contrôle pas budgétairement le gouvernement. La Cour constitutionnelle n'est pas l'autorité budgétaire. La Cour constitutionnelle ne pouvait pas, le dernier intervenant a dit, laisser le gouvernement se prévaloir de sa propre solitude. Lui-même, le gouvernement qui a pris une loi pour installer une nouvelle province, devait prévoir le moyen. Et alors, lorsque la Cour constitutionnelle a considéré que c'était une mesure exceptionnelle à prendre, c'est une fausseté et c'est un arrêt de la honte,
vous poursuivez toujours avec l'université Fourquilaire dans le cadre de la décentralisation. Les dimanches d'ailleurs c'était à Bibiplay.
Ouais.
Voilà. Mais en même temps, c'est paradoxal avec votre position à la troisième voie.
Non, nous avons été invités, moi, le président de la troisième voie, Félicité Kindoula, administrateur général de la troisième voie sur la politique et bonne gouvernance, et M. Emmanuel Bessemba, le directeur général de la troisième voie en charge de la science, législation et contrôle. Tous nous avons répondu à l'invitation du comité, à l'interpellation du comité de crise des jeunes de la troisième voie le dimanche dernier. Nous avons répondu et nous avons promis de convoquer dans les jours prochains l'Assemblée générale de la troisième voie au cours de laquelle nous allons exposer le nouveau programme du gouvernement de la troisième voie. Mais je peux rassurer à tous ceux qui nous suivent qu'il n'y a plus de problème au niveau de la troisième voie et que nous
voilà, en 30 secondes, quelle a été la quintessence de l'interview, j'allais raccorder, par votre législateur de l'université d'ailleurs, populaire, la deuxième visite, ou l'ancien premier ministre, quelle a été la quintessence en deux phrases?
Bon, on lui a posé la question de savoir sa position sur l'actualité. Il a montré que Moïse Katumbi, Joseph Kabila n'étaient pas différents parce qu'ils avaient l'obligation de rendre un bilan commun au peuple congolais.
Voilà, merci beaucoup Fumutoto Basanga, le président de la Troisième Voie et aussi initiateur de Mécontent. Merci beaucoup à Steve Kibwata, juriste. Nous disons également merci à vous tous qui avez participé à cette émission. Nous prenons rendez-vous avec vous demain dans une émission spéciale Parole aux auditeurs depuis Lubumbashi. Et puis jeudi, nous reviendrons encore sur les budgets, mais cette fois-là dans le secteur de l'enseignement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur mon tapis. Thank you.